Paris Kerguelen. Ah, écoutez, je suis pas fort en géographie, mais il y a là-bas un poteau indicateur, comme sur les grands terrains d'aviation, vous savez, qui donne la distance des grandes capitales. Alors, on sait tous que Paris, ça fait 12 540 kilomètres.
Marché à Kerguelen.
Bien, pour ce magazine des explorateurs, vous allez faire connaissance avec un monsieur. Et il dit qu'il n'est pas explorateur, c'est vrai, puisqu'il est administrateur supérieur des terres australes et antarctiques. Mais par là même, il est explorateur, tout au moins moi je le dis, si lui ne le dit pas. Je voudrais quand même qu'on jette un coup d'œil sur la carte et que vous nous présentiez les Kerguelen. Là, ce que nous voyons, c'est l'hémisphère sud, n'est-ce pas?
Ça, nous sommes dans l'hémisphère sud, évidemment. Et Kerguelen est un des quatre districts du territoire des terres australes et antarctiques françaises. D'ailleurs, la dénomination même du territoire nous le situe déjà.
Oui.
Hémisphère sud et Antarctique.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie du lointain successeur de Pierre Roland, qu'on vient d'entendre par deux fois, c'est François Garde, bonjour.
Bonjour.
Qui a été administrateur des terres australe et antarctique française, comme Pierre Roland, explorateur aussi peut-être à sa manière. Enfin, vous n'allez pas oser utiliser le mot. On racontera ce long trek de 25 jours que vous avez fait en 2015 du nord au sud de l'île dont vous avez été le responsable pendant plusieurs années. Ça, c'était entre 2000 et 2004. Qu'est-ce que c'est les TAF et qu'est-ce que c'est votre fonction? Vice-roi des Albatros, proconsul des îles froides, connétable des brumes et procurateur des manchots royaux?
Les terres australes et antarctiques françaises, comme le disait très bien mon lointain prédécesseur, ce sont trois archipels très au sud de l'océan Indien, et puis un morceau du continent antarctique qui appartiennent à la France depuis la prise de possession au 18e ou au 19e siècle. Il n'y a pas d'habitants, il y a juste des scientifiques et des logisticiens qui viennent y passer quelques mois ou une année. Et ce territoire est administré par une équipe d'une quarantaine de personnes, maintenant installée à Saint-Pierre-de-la-Réunion, et j'étais donc le patron de cette administration.
Terra Deli, vous avez indiqué ce que c'était il y a un instant. François Garde, se relie par bateau, c'est un nouveau bateau maintenant, l'Astrolabe?
Alors la Terra Deli, on y va depuis Hobart en Antarctique par un bateau qui s'appelle l'Astrolabe. Et là, depuis deux ans, c'est le deuxième du nom qui effectue la rotation quatre fois par an entre Hobart et la base du Mont-Durville.
Alors de la Réunion, on peut rejoindre les Kerguelen et les autres terres australes et antarctiques par le Marion Dufresne numéro 1, parce qu'il y a eu avant le Marion Dufresne numéro... Pardon, actuellement c'est le numéro 2 et avant il y avait évidemment le numéro 1. Et ici, ce débarquement de 1964 avec une équipe de la télévision française se faisait depuis le Gallieni.
Ce bateau ne transporte pas des passagers ordinaires. Une fois par an, il assure la relève des militaires, des scientifiques et des techniciens qui composent les missions françaises des terres australes. Exceptionnellement, cinq colonnes a pu participer à ce voyage. À l'aube, nous arrivons à Kerguelen. Les chalands pavoisés qui nous attendent. La descente des passagers par une échelle de coupé. La traditionnelle valise française portée haut et fière. Les amis venus à la rencontre des voyageurs. Les effusions. Cette atmosphère nous replonge dans la vie civilisée. Nous débarquons à Port-aux-Français, capitale des terres australes, ville de 60 habitants, créée en 1949.
Quelques années avant la création des TAF, c'était 1955. C'est vrai que c'est François Mitterrand qui a décidé de l'emplacement de Port-aux-Français quand il était ministre de l'Outre-mer?
Ah non, Port-aux-Français existait avant que François Mitterrand...
Donc Port-aux-Français ne date pas de 49, contrairement à ce qui est dit là par cinq colonnes.
Port-aux-Français date de 1946. Donc c'est quelques années avant et c'est pas une décision du gouvernement, c'est simplement l'endroit le plus approprié à la fois en termes de mouillage pour le bateau, de possibilité de créer une base, et puis il y a une grande plaine où aurait pu venir un aérodrome, mais jamais l'aérodrome ne vint, et donc on ne va à Kerguelen encore aujourd'hui que par bateau.
Alors confinement ou isolement, les deux peut-être, ça veut pas dire solitude pour ceux qui sont installés pour plusieurs mois à Port-aux-Français?
Non, on participe à une mission donc qui comporte une centaine de personnes en été, peut-être la moitié en hiver. Et donc, on vit dans une communauté. Il y a des bâtiments, un restaurant, un cinéma, une salle de sport. On a des collègues, des voisins de chambre. Bref, ça n'est pas du tout une aventure au sens où on est exposé. C'est une aventure parce qu'on est loin des siens, avec des gens qu'on n'a pas choisis, et on participe à quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Ça ressemble un peu à un embarquement sur un bateau, sauf qu'évidemment là le bateau ne peut pas couler, et on est dans cette île qui est grande comme la Corse quand même, et on peut l'explorer en respectant les consignes de sécurité. Donc il y a des relations très fortes qui se nouent entre parmi les hivernants. L'une des grosses différences avec les sons qu'on a entendus, c'est que maintenant il y a des femmes. À l'époque, c'était uniquement masculin.
Vous avez été tenté, quand vous étiez administrateur, de participer à quelques équipées qui vous permettaient de vous introduire un peu plus avant dans l'île depuis Port-au-Français.
Ma mission était d'incarner la souveraineté de la France, et la souveraineté de la France, elle s'incarne sur la base, mais aussi dans tous les coins du territoire. Je ne voulais pas rester cantonné simplement sur la base, et par ailleurs j'aime bien la marche à pied, donc j'ai profité de chacun de mes passages pour aller marcher 2 ou 3 jours, aller voir un peu les conditions de vie dans les cabanes ou dans des camps qui sont pour les scientifiques qui conduisent des relevés scientifiques. Donc je voulais savoir de quoi je parlais, donc il fallait y aller, donc des fois ça pouvait supposer 2 ou 3 jours de marche, mais quel bonheur d'aller poser son téléphone et de marcher 3 jours dans ces immensités.
Dans les cabanes, on a les livres laissés par ceux qui sont passés avant vous, un cahier dans chaque cabane.
Voilà, dans les cabanes, il y a très peu de choses. Hein. Il y a des lits superposés, dans le meilleur des cas, quelques boîtes de conserve et une gazinière. Mais il y a la tradition du cahier de cabane, où chacun note ce qui lui passe par la tête. Parfois des choses absurdes, parfois des poèmes, de la nostalgie, des choses convenables ou pas. Mais ça permet de vérifier l'occupation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une inscription tous les 3 ou 4 mois. Parfois, il y a une année sans aucune inscription. Et voilà, c'est un...
Il y a eu plusieurs tentatives, François Garde. Vous racontez un peu ça dans votre livre « Marcher à Kerguelen » aux éditions Gallimard, d'utilisation économique de l'île, d'installation humaine un peu plus durable. Le mouton, l'éléphant de mer pouvaient être élevés pour le premier, dépecés pour le second.
Il y a eu des tentatives en effet, essentiellement dans l'entre-deux-guerres, de colonisation agricole avec l'élevage du mouton, parce qu'après tout ça marchait aux Malouines, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas au Kerguelen. Pour des tas de raisons, en fait, ça ne marche pas, mais il a fallu plusieurs échecs pour arriver à s'en convaincre. Il y a eu effectivement l'exploitation de l'huile d'éléphant de mer ou de l'huile de manchot. Il y a eu plus récemment, dans les 70, une tentative de création de fermes de saumon, et tout ça a échoué. Il n'y a pas de valorisation économique possible des Kerguelen.
Il y a maintenant des expéditions archéologiques à la recherche des installations françaises, des installations allemandes, il y en a eu, des installations anglaises, voire des installations norvégiennes. Vous parlez de l'entre-deux-guerres, le témoignage que voici date de 1908. Il est signé, c'est son journal, par Rallier du Paty, qui avec son frère, c'était deux hobereaux bretons, avait tenté à la fois un travail scientifique et un travail d'exploitation économique au Kerguelen.
Lundi 11 janvier, beau temps, continuez la fonte et la chasse. Tuer 20 éléphants de mer, avons tué certainement tous les phoques qui se trouvaient dans Port-Élisabeth.
Bien que fils de bonne famille, les frères Rallier ne sont pas vraiment riches. Les expéditions coûtant fort cher, il faut bien trouver une source de revenus. De même, et c'est un souci constant de Raymond, il faut payer l'équipage. Les pauvres éléphants de mer en feront les frais, et lorsque le gibet Charcot quitte les Kerguelen, il a dedans ses cales 80 barils de la meilleure huile qui puisse se trouver. Cependant, n'allez pas croire que les frères Rallier furent seulement des chasseurs de phoques. Jamais ils n'oublièrent le but scientifique de leur voyage.
Dimanche 28, beau temps. Travaillez aujourd'hui avec l'assentiment des hommes qui prendront leur jour de repos un jour de mauvais temps. Pris une observation méridienne à l'horizon artificiel. Port-Élisabeth doit être reporté 2 000 plus sud que sur la carte.
De ces navigations et de ces marches naîtra un livre merveilleux, Aventure au Kerguelen. Un fjord et une baie portent le nom du matelot Larose, celui qu'on surnommait le moulin à biscuits, tant son appétit était grand. Fin joueur d'accordéon et lecteur d'Arthur Gordon Pym, les mélodies du matelot Agnès planent aujourd'hui sur un petit port des Kerguelen. Et c'est un lac profond qui porte la mémoire du basque Bontemps, le taciturne et compétent Bosco du gibet Charcot. Quant aux frères Raymond et Henri, ils sont devenus des montagnes dans la péninsule qui porte leur nom de famille. Ils ont enfin l'éternité pour évoquer leurs souvenirs d'enfance.
Le J.B. Charcot, c'était le voilier de 18 mètres des ralliés du bâti qui ont contribué à la toponymie à Kerguelen. Et vous avez été président de la commission de toponymie.
Oui, parce que
lorsque
ces terres ont été fréquentées par des baleiniers américains, des scientifiques allemands, des anglais, et chacun donnait les noms qu'il voulait dans une pagaille totale. Et donc, dans les années 50, la France a souhaité mettre un peu d'ordre dans tout cela. Et donc, il y a une commission qui a été chargée de vérifier qu'un nom ne corresponde qu'à un seul endroit, et qu'un seul endroit n'est qu'un seul nom. Et donc il a fallu toiletter tout cela et donner des noms, et cette commission existe encore. J'ai eu l'honneur de la présider à quelques reprises, de baptiser, je me souviens, un îlot, l'îlot de la baleine, parce que voilà, c'était un endroit qui méritait un nom.
Alors vous qui êtes écrivain depuis la plus tendre enfance, ça vous fait rêver quand même la juxtaposition improbable de noms qui viennent souvent de France, mais d'endroits très éloignés en France et qui peuvent être plus proches à Kerguelen. Moi, j'aime bien les Sept-Lots et c'est pas loin de Rottenhof que j'aime bien.
Voilà, c'est très étrange de voir sur une carte le Mont Blanc à côté de la baie d'Audierne, le Val d'Aoste à côté des Sept-Lots et Château Gaillard touchant le Château d'If. Et donc vous marchez dans cette confusion de noms qui vous renvoie à la métropole, mais qui en même temps vous disent quelque chose d'étrange. Moi, je me souviens vraiment d'avoir planté la tente sous le Luberon plâtré de neige. Moi qui ai grandi à Aix-en-Provence, le Luberon plâtré de neige, ça n'existe pas. Et pourtant, j'étais au Luberon, j'ai planté ma tente au bord de la mer, entre la mer et le Luberon plâtré de neige. Ça procure un sentiment d'étrangeté poétique tout à fait fascinant.
Marcher, la tente, alors on en vient à la description de l'expédition, du trek au départ. Vous êtes quatre amis enfin, ou qui deviennent amis, parce qu'ils ne se connaissent pas tous nécessairement. Vous travaillez à partir de cartes et des chemins qu'a tracé Isabelle Autissier avec son équipe quelques années auparavant?
Alors, le parcours que nous avons fait de l'extrême nord à l'extrême sud n'a été parcouru entièrement une seule fois par Isabelle Autissier en 1999. Donc, elle m'avait communiqué ses cartes, son itinéraire reporté sur les cartes, ça nous a beaucoup aidé. Mais après, pour le reste, les cartes sont un petit peu fausses, le carroyage de la carte n'est pas le carroyage du GPS, donc il y a des décalages. Bref, il faut faire appel beaucoup à son sens du terrain, à son sens de la montagne, et puis des fois, il y a deux vallées qui sont parallèles, on prend celle de droite, on prend celle de gauche, au hasard on en prend une et puis on verra bien ce qui va se passer. Ou on remonte à une vallée et puis on arrive à un col et de l'autre côté il y a un à-pic infranchissable, on part à droite, on part à gauche, on envoie une équipe de chaque côté et puis on choisira celle qui nous fera le meilleur rapport. Donc marcher dans une terre qui n'est pas vierge, mais qui a été très très peu pratiquée, où il n'y a pas de tradition orale, il n'y a pas de sentier, il n'y a pas de balisage. C'est en permanence se remettre en question et s'affronter avec la réalité du terrain. Quand on aime la marche en montagne, c'est particulièrement jouissif.
Oui, enfin, vous dites pas ça à chaque instant, parce que le sol est traître sous le pied.
Le sol est toujours compliqué, parce qu'il est gorgé d'eau très très souvent. Donc ce qu'on appelle des souilles, dans lesquelles vous posez le pied et vous vous enfoncez, si tout va bien, jusqu'au sommet de la chaussure, et ça peut aller jusqu'au genou, voire jusqu'à mi-cuisse. Et donc vous vous cassez la figure, évidemment. Donc il faut faire attention, on marche, on est assez lourdement lesté, puisqu'on a des sacs qui faisaient 25 kilos, deux bâtons de marche, on est en permanence en train de chercher son équilibre en disant telle pierre sera traîtresse, ou cette herbe-là me paraît à peu près solide, et puis non, on se trompe, et le pied enfonce. Donc oui, on fait attention. Quand on a un bord de lac bien caillouteux, bien franc, ou un bord de mer avec une plage de sable noir, et là on peut avancer à 3 voire 4 km heure, on a l'impression d'une vitesse fantastique.
Des lacs qui ne sont pas toujours des lacs, dont la profondeur selon l'emplacement va être très variable. Il y a des lacs très profonds, d'autres qui ressemblent à des marécages, non ?
Il y a des lacs de toutes les tailles, il y a aussi d'ailleurs des lacs qui se déplacent, qui ne sont pas là où ils sont marqués sur les cartes. Il y a aussi des cascades qui remontent vers le ciel à cause de la force du vent. C'est vraiment un des paysages et des conditions de randonnée qui ne ressemblent à aucune autre et où en permanence les cinq sens sont en éveil. Il faut être attentif à la fois pour des raisons de sécurité et en même temps pour la beauté de ces paysages. On n'y reviendra pas, donc il faut vraiment s'en saturer les yeux tant qu'on peut.
Raison de sécurité, j'ai hésité entre le mot trek et le mot expédition. Et vous-même, vous hésitez. C'est quand même une expédition au sens que le danger est permanent et que si vous êtes blessé, personne ne viendra vous chercher dans un endroit aussi hostile.
C'est un trek en termes de technique, de progression et d'autonomie. C'est une expédition en termes d'engagement et d'absence de possibilité de secours. Effectivement, il n'y a pas d'hélicoptère sur la base de Port-au-Français. Donc, s'il devait arriver quelque chose à l'un des marcheurs, eh bien, l'expédition s'arrête et puis on attend une colonne de secours à pied, mais qui peut mettre 5 ou 10 jours pour arriver. Du coup, on est effectivement extraordinairement prudent et responsable. Et d'ailleurs, tout s'est bien passé. Nous avons réussi sans aucun bobo. Mais il y a effectivement des dangers objectifs. Il y a ces espèces de grands marécages dans lesquels on peut s'enfoncer. Il y a la traversée des rivières. Ça, c'est le danger le plus évident, puisque les rivières, il n'y a pas de pont. Donc, il faut enlever le pantalon et les chaussures, traverser. Et le courant, dans une eau qui est à 2 degrés, peut être très fort et vous renverser. Il y a les passages sur glaciers, il y a les descentes dans les éboulis ou dans des pentes très très raides. Bref, il faut faire attention. Un peu de technique montagne ne nuit pas. Et quand on a fait les choses avec raison et prudence, on arrive à passer.
Mais le comité de lecture de Gallimard a dû regarder avec étonnement ce livre qu'au fond, vous rédigiez déjà sous forme de journal, sous la tente, quotidiennement, qui est un récit d'expédition, de trek ou un livre d'écrivain?
Alors, tous les soirs sous la tente, pendant une petite heure, j'essaie de raconter la journée, d'en dégager le sens, la force, de trouver les mots qui en rendaient compte. Puis ensuite, j'ai écrit ce livre sur cette base-là, pendant les 2 ans qui ont suivi. Et oui, je prétends que c'est un livre d'écrivain, c'est-à-dire c'est pas évidemment un livre qui permettra à d'autres de faire cette marche, puisque personne n'y va là-bas. Donc, faites cette marche à travers mon regard, à travers mon pas, et en le lisant comme un livre de littérature, c'est-à-dire un livre qui ouvre les portes et les fenêtres à l'imaginaire.
Mais qu'est-ce que c'est le sens de cette aventure? C'est une modeste expédition inutile dans une île qui n'a que faire de vous?
Une expédition inutile, ça je le revendique, là où la mode est d'habiller son expédition avec le soutien de nobles causes, nous n'en défendions aucune. Et puis cette île, évidemment, n'a rien à faire de nous. Lorsque nous sommes passés, eh bien on se retourne, l'île est exactement pareille qu'avant notre passage, nous remportons nos déchets, il n'y a aucune trace de nous. Et justement, ce passage comme ça, hors du temps, dans une île elle-même hors du temps, et moi quelque chose qui m'a beaucoup fasciné. Je voulais d'abord savoir si j'en étais capable physiquement, si j'étais capable littérairement d'en tirer quelque chose ensuite. Et puis j'ai découvert au fil de la progression une espèce de plénitude et de bonheur constant qui m'a étonné, mais qui m'a complètement emporté. Pendant 25 jours, j'ai été heureux chaque minute. C'est une expérience extraordinaire.
C'est juste une épreuve.
Physiquement, c'est parfois dur parce qu'il fait froid, il y a beaucoup de vent.
Au sens chevaleresque du mot.
Oui, non. Alors c'est une épreuve pour le corps, mais le corps s'adapte. On se découvre des capacités de résistance bien supérieures à celles qu'on imagine, et on va quelque part au bout de soi. Mais c'est pas une épreuve. C'est une joie constante. On ne se transforme pas. On ne devient pas un autre. On va quelque part au bout de soi aussi, en effet.
Enfin, une joie constante. Qui ira marcher à Kerguelen n'en est pas nécessairement convaincu. Encore que, il y a des moments où à chaque instant vous reviennent des musiques qui vous sont familières. Ainsi, un mois avant de partir, vous étiez à l'opéra de Genève où on donnait Offenbach.
D'un trois déesse se querelle dans un bois. Qu'elle dise ses princesses, la plus belle de nous trois. Et voyez que ces déesses pour enjôler les garçons. Et voyez que ces déesses ont de drôles de façons. Ont de drôles de façons. Dans ce bois passe un jeune homme. Un jeune homme frais et beau, c'est moi. Sa main tenait une pomme, vous voyez bien le tableau. Ah, oh là, le beau jeune homme beau jeune homme, arrêtez-vous et veuillez donner la pomme à la plus belle de nous. Et voyez que ces déesses pour enjôler les garçons. Et voyez que ces déesses ont de drôles de façons. Ont de drôles de façons.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Marcher à Kerguelen avec François Garde qui en compagnie de trois camarades a participé à une expédition du nord au sud de l'île et certains jours donc vous accompagnaient Rachmaninov, Mozart, Offenbach.
Oui, alors là, ce jour-là, nous marchions entre le mont Paris, le mont Hélène, le mont Héra et le mont Athéna.
Donc on comprend. Donc,
et comme j'étais allé voir la belle Hélène le mois précédent, je me rappelle très bien avoir hurlé, beaucoup moins bien que dans l'extrait qu'on vient d'entendre, l'air de Paris, dans la pluie, le vent, etc. Mais c'était extraordinaire, ça vous saoule, à la fois le vent, l'hyperoxygénation, la musique. Et donc c'était vraiment un moment d'extase. Avec aussi ce contraste entre le côté très sophistiqué de cette ère Second Empire, etc. Et puis nous qui étions sales, crasseux, fatigués, parasés, etc. Quoi.
On n'a pas assez parlé du vent, parce que quand l'un de vous dit Brésil, il y a tellement de vent que vous entendez Brésil.
Oui, et je pense à la samba qui porte, ce nom, que je ne vais pas vous chanter, mais voilà, chacun l'a aussi dans l'oreille.
Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce vent, dont Kaufmann, je crois, dans l'Arche des Kerguelen, il y a 25 ans, il est allé, lui aussi à Kerguelen, dit qu'il ne siffle pas.
Non, il ne siffle pas parce qu'il n'y a pas d'arbres, donc il n'y a rien qui accroche le vent, sauf le relief lui-même. Il est toujours présent, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de vent, c'est 30 km/h, ça peut monter jusqu'à 120-150 km/h. Il est souvent inconstant, donc il gronde, il ralentit, il augmente, il virevolte, il change de direction selon le relief, il vient vous attaquer, si je puis dire, quand vous ne vous y attendez pas. Il peut parfois quasiment vous soulever, et gare à la réception parce qu'on peut se péter une cheville facilement. Il soulève les cascades, il m'a volé un bonnet, il est facétieux, il est constant, il est toujours là. C'est l'élément le plus constant du paysage de Kerguelen. On ne le voit pas. Et c'est l'élément le plus constant du paysage de Kerguelen.
Et puis l'humidité aussi.
Alors l'humidité, oui, bien sûr, il pleut beaucoup. Sur 25 jours de marche, je crois que nous n'avons eu que 3 jours sans aucune précipitation. Alors de la pluie, de la neige, un mélange des deux, du grésil, que sais-je. C'est humide, et ma foi, on marche mouillé. Hein. La pluie, c'est pas si grave que ça.
Non, mais j'ai compris, c'était la joie quotidienne. C'est d'ailleurs pour ça que vous faites la comparaison parfois, et vous vient à l'esprit, je me demande pourquoi, avec les poilus de la Grande Guerre ou les grognards de la Grande Armée.
Oui, j'ai pensé, parce que c'était un siècle avant, à mon grand-père qui était du côté de Verdun et en Champagne. Et les petites fois où j'ai eu une petite baisse de morale, je me dis mais enfin quoi, je vais pas me plaindre. D'abord, moi j'ai choisi d'être là, ensuite personne ne me tire dessus. Donc par rapport à ce qu'ont enduré les héros de la Grande Armée, c'est tout à fait innocent. Enfin c'est juste un jeu. Il suffisait de relativiser comme cela pour que les petites misères quotidiennes disparaissent par enchantement.
Mais vous allez beaucoup plus loin, vous dites que nous sommes habitués à une sorte de paresse. L'escalator, l'ascenseur.
Oui, bien sûr, nous ne marchons plus. Marcher pendant 25 jours, ça veut dire en permanence mobiliser cette faculté de locomotion. Et on s'aperçoit au quotidien qu'on prend effectivement l'escalator, l'ascenseur, le train, le métro, que sais-je, et qu'on prend la voiture pour aller à 500 mètres chercher son pain. Et ça, c'est absurde. Alors qu'à pied, on peut faire exactement la même chose. Et c'est bien meilleur pour la santé.
Quels sont ces longs cris d'adolescents? C'est les éléphants de mer, bien sûr. Et qui sont ces personnages qui sont toujours en grappe? Ce sont les manchots. Mais qui sont ces animaux rongeurs à très 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 longues oreilles? On va réentendre votre prédécesseur, l'administrateur des TAF, Pierre Roland.
Les rivages de Kerguelen ont été fréquentés par d'innombrables voiliers qui venaient là chasser le phoque et la baleine. Et à l'époque de la marine à voile, les naufrages ont été assez nombreux. Et un des capitaines américains avait pensé qu'il serait bon pour assurer la subsistance des naufragés éventuels, d'essayer de lâcher des lapins et des cochons dans les îles. Les cochons n'ont pas réussi, mais les lapins ont magnifiquement réussi, un peu comme en Australie. Et actuellement, c'est le fléau. Et en hiver, seule la Sena ayant résisté à ces rongeurs, en hiver, la Sena disparaît, ils se nourrissent de varechs. Ils viennent sur les plages se nourrir de varechs, et d'ailleurs, des centaines de milliers de milles meurent noyés ou de faim. Et à la fin de l'hiver, toutes les plages sont parsemées de cadavres de lapins momifiés. On a essayé de les détruire, parce que si on arrivait à supprimer les lapins...
Mais la myxomatose, voyons.
Nous avons essayé la myxomatose.
Vous l'avez essayé ?
Elle a échoué. Alors, nous avons donc essayé, il y a un autre agent, c'est la puce de l'oreille du lapin. Nous avons essayé de nous procurer des puces. Alors,
vous avez importé des puces.
Après moult difficultés, nous sommes arrivés à avoir des puces du Muséum de Londres. Ces puces, nous les avions mises sur une lapine pour qu'elles voyagent le plus confortablement possible. Et... pendant le trajet, cette lapine a mis bas. Et le Bosco du bateau, voyant cette lapine avec ses petits couvertes de puces, a dit, ces gens de la mission sont vraiment des brutes, et nous l'a passé entièrement au DDT.
Et les lapins sont toujours là.
Les lapins sont toujours là, c'est une espèce invasive qui réussit bien, et donc qui font de gros dégâts écologiques, comme le pissenlit par exemple, qui est aussi une espèce invasive et qui colonise des endroits où il n'a rien à faire. C'est un des grands défis pour les prochaines années de traiter les espèces invasives.
Les mammifères terrestres ont été tous introduits par l'homme à Kerguelen.
Absolument, les mammifères marins sont venus par leurs propres moyens, mais tous les mammifères terrestres qui sont présents à Kerguelen ont été introduits par l'homme.
Mais vous me direz qu'il en est, qu'ils savent nager et qu'ils peuvent s'éloigner de l'endroit où on les a installés, comme les rennes.
Bien sûr, on avait mis des rennes et des mouflons sur deux îles différentes. Les mouflons sont restés sur leur île. Et par contre, les rennes, eux, quand ils ont eu un peu faim, ils ont traversé le bras de mer à la nage et ils ont colonisé toute la Grande Terre. Il y a plusieurs centaines de rennes à Kerguelen.
Mais à entendre votre prédécesseur Pierre Roland, on voit que l'administrateur s'occupe des lapins et vous, vous êtes occupé des rats.
Je me suis occupé de rats et de souris sur une île qui s'appelle l'île d'Australia, qui fait plus de 1000 hectares, que nous avons entièrement libéré de toutes les espèces de rongeurs introduites. Et ça a été la plus grande île du monde à avoir été ainsi libérée. Bon, elle a perdu son record depuis, mais ça reste toujours la plus grande île de France à avoir été ainsi libérée. Mais il y a fallu... un mois de campagne d'hélicoptère et une quantité de poison que j'ose à peine évoquer à cette antenne.
Mais je vois que les TAF servent à battre des records. Mais à quoi ça sert, monsieur l'administrateur ? À montrer que la France, c'est pas seulement un hexagone, que la France est une discontinuité, qu'elle est présente à travers tout le monde ?
La France, ce n'est pas que l'hexagone, vous l'avez très bien dit. C'est l'hexagone et toute une série de terres habitées. Et puis, quelques terres inhabitées qui appartiennent à la France, et donc à l'égard de laquelle la France n'a peut-être pas de projet, mais à l'égard desquelles la France a une responsabilité, qui lui vient de l'histoire. Puisque le drapeau français flotte sur ces îles, essayons de les gérer du mieux possible et de réparer les bêtises qu'ont fait nos prédécesseurs.
Marché à Kerguelen, beau livre de François Garde chez Gallimard, et puis vous avez publié depuis, parce que vous êtes quasi un écrivain à mi-temps. Maintenant, Le Roi par effraction, un livre toujours chez Gallimard sur Murat. L'émission a été préparée par Frédéric Martin, avec Antoine Gomez à la technique, Audrey Ripouille à la réalisation.